Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Art plastique. Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino et Camille André. Prise de son assurée ce soir par Jean-Guy Lamège. Réalisation Thomas Beau. Et autour de moi ce soir, Corinne Rondeau, Stéphane Coréard et Frédéric Bonnet pour parler ensemble de Zawoki, l'espace et silence, exposition au Musée d'art moderne de la ville de Paris. Bouchra Halili, Blackburn, c'est au Jeu de Paume. Et Roman Silsiewicz, la fabrique des images au Musée des arts décoratifs. Aïssa Tundoy est là pour surveiller les fils Twitter et Facebook et donner à entendre les commentaires ou questions que vous pourriez avoir à poser sur notre sommaire. Et puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute. Ce soir, des invitations, des places de cinéma pour le film Una Questione Privata de Paolo et Vittorio Taviani qui est sorti aujourd'hui dans les salles et dont nous parlerons vendredi soir dans la dispute. Nous ouvrons cette dispute avec l'exposition « L'espace et silence » au Musée d'art moderne de la ville de Paris. Zawoki qui se voit consacrer une grande exposition dans une institution parisienne. Ça faisait longtemps que ça n'avait pas été le cas, 15 ans. Il est mort en 2013, il s'était installé à Paris en 1948. L'exposition débute avec des œuvres du milieu des années 50 et propose notamment, on va parler un focus sur le grand format pour un peintre qui a sans cesse interrogé, on va en parler, la relation à la nature, à l'espace. Ce sont François Michaud et Eric Verhagen qui sont les commissaires de cette exposition avec la collaboration de Marianne Sarkari.
Je ne suis pas quelqu'un qui refusait toutes les traditions. J'adore les traditions, de bonnes traditions. C'est-à-dire qu'il faut plutôt de assimiler, de digérer et profiter de toutes les traditions qu'on avait eues avant. On ne peut pas rejeter les traditions. C'est tellement bête de rejeter.
Et c'est Frédéric Bonnet qui va ouvrir cette dispute sur l'exposition de Zawoki nommée « L'espace et silence ». Frédéric.
J'ai jamais été fasciné par le travail de Zawoki et cette exposition m'aura pas fait changer d'avis. C'est un travail qui me plonge dans une sorte d'ennui ouaté, je dirais, parce que c'est évidemment une peinture qui est propice à la contemplation, mais cet univers dans lequel à peu près toutes les références en fait ont disparu est traité souvent sur un mode assez cotonneux, un peu lyrique et voilà, brumeux, nuageux, je sais pas trop comment qualifier ça, et qui fait que je m'y ennuie, oui, quand même assez vite. J'ai quand même trouvé quelques belles œuvres dans l'exposition, mais moi, ce qui me pose vraiment problème dans le travail de Zawoki, c'est que ce que je trouve le plus intéressant, c'est la période des années 60. Mais même déjà dans les années 60, moi, il m'apparaît être complètement à côté de l'histoire. Alors, les défenseurs de Zawoki vous diront, mais non, c'est une figure singulière. Il n'empêche que, vous regardez son travail, la première œuvre qu'on voit en rentrant dans l'exposition, c'est ce triptyque que je trouve très, très raté en hommage à André Malraux. Bon, celui-là, il est plus tardif, il est des années 70, mais il est assez semblable à pas mal de pièces des années 60. Moi, il m'évoque quand même furieusement une touche à la Franz Kline. Alors, j'adore Franz Kline, par contre, mais justement, le Franz Kline un peu raté, et faire des évocations de ce type d'abstraction américaine dans les années 60, alors que le gros de la troupe s'est agité à la fin des années 40 et pendant les années 50, bah voilà, ça me paraît être oui, à côté de l'histoire, avoir un peu loupé le coche. Et quand on avance dans la chronologie, ça ne s'arrête m'arrange pas parce que la dernière partie des années 80, là, je l'ai trouvée véritablement, véritablement pitoyable, parce que autant quand il y a un peu de, quand il y a un peu d'aspérité, quand il y a un peu de nervosité, si quelque chose m'intéresse dans le travail de Zahavouki, ça serait cette énergie qu'il est quand même capable de concentrer sur le tableau. Encore une fois, dans les années 60 et une partie des années 70, où je trouve qu'il y a un travail de la surface qui est assez intéressant, en concentrant au centre du tableau toute une sorte d'énergie et en jouant très habilement donc d'une matière au centre et de bordures de la toile qui vont être laissées lisses, et il joue très très habilement de ça, des différences de texture et des différences de couleurs. Quand on arrive dans le travail des années 80, tout est devenu plat. On a l'impression que la couleur a été projetée avec du pinceau ou je ne sais pas quoi. Et les coloris deviennent véritablement problématiques, en particulier pour ce qui est présenté comme une des pièces très importantes de l'exposition, qui est ce triptyque en hommage à Monet. Les coloris sont hideux. Le rose épisseux, le bleu va pas. Véritablement, moi, je m'en sors pas de cette peinture-là. Il n'y a plus rien qui est là pour me retenir, comme pouvaient le faire quand même certains tableaux des années 60. Mais alors là, arrivé dans les années 80, ça glisse et puis il n'y a plus rien pour vous rattraper, quoi.
Bon, Stéphane Correa boit du petit lait à vous écouter, hein, Frédéric Bonnet.
Pas du tout, j'ai cru qu'il lisait mes notes, Frédéric, mais non, trêve de plaisanterie, on va pas commencer comme ça. D'abord, je trouve que c'est une drôle d'idée, cette exposition, à plusieurs titres. D'abord, en fait, de titre, elle porte très mal son titre. L'espace et silence, dans cette exposition, il n'y a ni espace, ni silence. Ils ont quand même choisi le moment où le musée, et la majeure partie du musée est fermée, et il faut organiser cette exposition donc dans ce qui sont normalement des salles de la collection permanente. Il y a 4 salles hyper denses, avec que des grands formats. Ça explose dans tous les sens, et ça manque vraiment cruellement d'espace, de respiration, et précisément de silence. Par ailleurs, on a du mal à comprendre, enfin moi j'ai eu du mal à comprendre les parties prises de l'exposition, qui est une quasi rétrospective, il manque simplement les 10 premières années. Pourquoi, je n'ai pas compris, mais peut-être que quelqu'un pourra me l'expliquer. Je trouve que c'est très
dommage.
Est-ce
qu'il y avait des grands formats avant, dans les 10 premières années?
Alors c'est peut-être la raison, mais je trouve que c'est un peu curieux, 15 ans après sa rétrospective au Jeu de Paume, de ne pas montrer ses débuts, qui d'ailleurs sont assez charmants, post-Paul Klee comme ça, et je pense aurait permis en plus de faire un écho intéressant à la fin de son travail, que moi je ne connaissais pas, est à l'autre de la toute fin 2005-2006, où il revient à une forme de figuration, il y a cette barque dans ce grand tableau, etc. C'est pas forcément le plus réussi, mais en tout cas c'est intéressant de voir comment il boucle la boucle, et d'autre part, simplement de limiter cette exposition au grand format. Je vois pas en quoi il forme un corpus à part dans l'œuvre de Zahavouki, et je trouve que c'est une limitation. On n'a pas fait de la croix les grands formats.
On n'est pas à l'abri de Picasso et les grands formats, parce que ça sera de toute façon un jour ou l'autre.
C'est vrai. Néanmoins, je trouve que ses choix ont le mérite au moins de mettre en relief des caractéristiques que moi je n'avais pas vues comme ça dans la peinture de Zahavouki. Et pour reprendre et prolonger ce qu'a dit Frédéric Bonnet, effectivement, sa relation à la peinture américaine. Moi, j'ai toujours vu, puisque on connaît depuis toujours Zahavouki dans une tradition française. Justement, il s'est installé en France très tôt. Moi, quand j'étais jeune, il y a très longtemps, Arnaud, on disait que c'était un épigone de Henri Michaux. Aujourd'hui, il n'y a qu'à voir comment la notoriété de l'un et de l'autre ont évolué pour voir que plus personne ne se risquerait à dire ça. Mais là, effectivement, dans l'exposition, et c'est peut-être dû aussi au fait qu'un des commissaires, notamment Eric Verhagen, est plutôt un spécialiste de peinture américaine, j'ai pensé à Klein, effectivement, pour la structuration du tableau par ces lignes de tension comme ça sombre. On pense aussi souvent à Pollock, parce que j'avais jamais remarqué à quel point il utilisait le draping, mais aussi des coulures de térébenthine, etc. Mais plus que cette école new-yorkaise, c'est plutôt californien que je trouve qui fait penser à Mark Tobey, éventuellement à Sam Francis, c'est-à-dire toute cette école de peinture américaine qui est aussi marquée par la pensée du zen et par tout ce qu'a introduit John Cage. Le côté plus négatif, c'est effectivement ce côté grandiloquent. Alors l'hommage à Malraux, l'hommage à Monet, l'hommage à Matisse, l'hommage à Michaud, l'hommage à que tous les grands hommes du XXe siècle y passent. On voit aussi tous les dons que Zahavouki a fait, toute l'espèce d'entrisme, tout ce volontarisme qu'il a eu pour réussir quand même en France. Je trouve que la scénographie, qui est très minimaliste, mais surjoue cette solennité d'une part, effectivement, par ses grands formats, mais il y a des symétries comme ça, systématiques dans l'accrochage. Il y a aussi des parties prises avec des colonnes, des tableaux qui sont encadrés par des colonnes. Je trouve que tout ça renforce le côté académique pour moi de cette peinture.
Corinne Rondeau, enfin, pour boucler ce tour de table. Oui. Zaobuki.
Alors moi, je suis pas fan du tout, mais je trouve que ils s'en sortent bien dans cet espace qui est quand même pas simple là, avec le réaménagement, enfin le seul espace qui leur est désormais dédié. Parce que comme vous, Stéphane, j'ai trouvé que justement j'ai vu des choses que je n'avais pas vues chez Zaobuki, parce que on y passe un peu à côté, parce que il fait un peu poster de salle de Toubib et on fait pas attention. Et j'ai trouvé que pour le coup, ils s'en sortent plutôt bien. Moi, je me suis pas arrêtée sur ça ressemblerait à de la peinture américaine, mais voilà, là où on l'attendrait et elle y est pas, etc. Je m'en foutais un peu, faut dire, même s'il y a un texte dans le catalogue. Moi, par contre, j'ai trouvé qu'ils s'en sont bien sortis, justement avec ces grands formats, même si je reconnais la question de l'hommage à. Je pense que c'est aussi le peintre qui regarde, je dirais, ceux qui l'accueillent. D'ailleurs, très clairement, il a dit « je donne, voilà, pour ma naturalisation française, je donne tel tableau ». Enfin voilà, il y a un rapport très très net chez lui. Donc l'hommage, bon, ben voilà, c'est peut-être aussi pour faire venir le public. Mais indépendamment de ça, je trouve que voilà, on rejoint ce que disait aussi Frédéric sur cette tension qu'il y a sur les centres des tableaux dans les années 60, mais aussi 70. Et il y a un tableau qui est... s'appelle Nous deux de 57 et qui est en fait le tableau qu'il fait à la séparation de sa première épouse, et on voit de la calligraphie qui est complètement explosée. Et en fait tous ces bouts de, et moi je ne les ai vus qu'en dans un deuxième temps quand j'ai refait le tour de l'exposition, parce que il y a effectivement le centre des tableaux, soit quand il commence dans les années 50 avec soit des horizontales ou des verticales où il y a justement ces petits traits qui apparaissent comme ça, et puis peu à peu ils vont se centraliser. Et il dit d'ailleurs, je cherchais un centre qui irradie. Et là pour le coup je rejoins ce que disait Frédéric, il y parvient vraiment avec beaucoup d'intensité, où il focalise quelque chose de ces traits qui pour moi relèvent en fait de toute son éducation de la calligraphie quand il est petit chinois. Et le grand tableau, c'est aussi toute une tradition du parchemin qu'on déroule, sur lequel qu'on va retrouver à la fin de l'exposition, puisqu'il y a des encres gigantesques qui sont quand même pas dégueulasses, hein, parce qu'il y a une dimension chorégraphique qui est assez belle. Moi, j'ai presque pensé, bon, ça y ressemble un peu, mais pas tout à fait, à Trisha Brown. Vous savez, elle était sur du papier et elle faisait des traits comme ça avec ses pieds. Et on sent, en fait, et cette lecture de ces encres par Zaobuki à la fin de l'expo m'ont redonné du sens dans un autre parcours, justement, sur cette calligraphie explosée, puisque on a dit donc ce centre qui est plein de traits de tension avec une bordure relâchée, puis ensuite on va passer dans les années 80 à ce centre vide où il va mettre un blanc, un vide vraiment, comme s'il cherchait vraiment l'espace, mais l'espace de son corps. Moi j'ai eu la sensation que la recherche de Zaobuki c'était où se trouve le corps du peintre quand il est sur la toile, parce qu'il peint au sol, hein, pour certains. Sur l'encre, enfin à l'encre il est au sol, il est sur le chevalet à la peinture. Moi j'ai eu la sensation qu'il était tout le temps à la recherche de où se trouve mon corps, l'intérieur de la surface. Et c'est cet intérêt que j'ai eu entre cette tension qui irradie d'abord, puis ensuite il la vide littéralement, avec ce très beau tableau quand même, l'hommage à Matisse. Il y a une bande noire de laqué rose, bleu, noir laqué, rose, et un jaune sur un fond bleu, ça tire un peu un jaune verdâtre, qui est assez fort, j'ai trouvé. Et donc, et ce travail un petit peu granuleux, ou effectivement de projection de peinture, comme vous le disiez Frédéric, ressemble un peu à une surface rocheuse de peinture rupestre. J'ai trouvé qu'il y avait un travail très minutieux finalement sur n'importe quoi. Alors je suis d'accord avec vous, les années 90 m'ont extrêmement déçu, mais en même temps c'est pas inintéressant, c'est-à-dire que celui qui cherche à tendre la surface par un signe qui explose et qui est très 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 présent, je dirais même dans la dimension affective qu'il a. Un des grands tableaux, c'est celui-ci, moi je trouve, le Nous deux. Puis ensuite le tableau de la mort de sa seconde femme, qui est Hommage à May, et qui est un gigantesque tableau, puisqu'il aime beaucoup le brun et le noir. Alors là, vous avez cinq monolithes noirs comme ça, et sur le voilà, pour le coup, il y a une explosion de ces traits au milieu, qui sont des blocs, là, pour le coup. Donc, il y a une vraie pensée du centre, une centre qui va ensuite évider. Et puis ensuite, quelqu'un qui veut qui cherche, parce que moi je crois qu'il cherche la surface, qu'il ne la trouve pas. Et d'ailleurs, quand on fait un hommage à Matisse et qu'en fait il crée de la perspective, il ne fait que créer de la perspective. Les derniers tableaux que vous n'aimez pas, par exemple Frédéric, moi, vous disiez un problème de surface. Excusez-moi si j'ai pas bien retenu la phrase, mais je trouve qu'au contraire il cherche de la profondeur. Et c'est là qu'il est raté. Moi je trouve que c'est raté parce qu'il cherche quelque chose qui ne peut pas trouver. C'est comme le, il inverserait du Monet. Voilà, c'est un hommage à Matisse. Improbable, voilà. Parce que moi, j'ai trouvé, il cherche comme dans les nymphéas, vous savez, il y a des sols pleureurs sur les bords de certains panneaux. Et là, d'un coup, je dis, mais wow, où est-ce qu'il est, quoi? Comme s'il s'était mis dans la grotte pour regarder à l'extérieur des paysages. Mais ça, pour le coup, je trouve pas que ça tienne, même si c'est du triptyque. Enfin, voilà. Donc, moi, pour moi, c'était à la recherche du centre et du corps du peintre à l'intérieur de son tableau. Moi, c'est le seul. Je dirais le fil conducteur de cette exposition, même si je n'aime pas du tout Zaouk.
Bon, ben voilà, ça c'est la chute, évidemment. Moi, je ne comprends pas qu'on n'aime pas Zaouk, donc effectivement,
je me sens très
minoritaire. Moi, ça me bouleverse, ça m'émeut. Je ne comprends pas qu'on ne sente pas cette explosion, moi, je le trouve extrêmement dans toutes ses œuvres, au contraire de vous, à la fois dans la... Il nous offre une contemplation et en même temps il nous fait venir à nous les paysages, ce grand tableau en hommage à sa deuxième femme par exemple, et pour moi un des très 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 beaux paysages de cette exposition. Même, on parlait tout à l'heure aussi du grand triptyque bleu avec cette petite barque que j'aurais bien enlevée, mais qui pour moi a aussi une force très grande, à la fois ce qui m'étonne, c'est qu'on est à la fois rejeté et attiré. Enfin, moi, je suis à la fois rejeté et attiré par toutes ces toiles. En face de ce grand triptyque bleu, il y a deux grandes compositions qui sont plutôt très, très claires, très lumineuses, dans des blancs, dans des couleurs, des jaunes très pâles, et qui sont, oui, comme un souvenir d'explosion ou d'implosion. On ne sait jamais, je trouve, si ça va vers le centre ou si ça vient du centre. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui est extrêmement duel dans la façon dont je perçois le travail de Zaouk. Alors, les grandes encres, c'est quand même, oui, je suis, comme on vous a dit, pas dégueulasse.
Non.
Là, c'est le moins qu'on puisse dire, me semble-t-il. Qu'il y ait des périodes moins heureuses que d'autres, là, je vous rejoins sur les années, alors, oui, 80, 90, c'est un peu à cheval. Mais bon, voilà, c'est quelqu'un qui, en tout cas, cherche quelque chose, en effet. Alors, je ne sais pas si c'est lui qu'il cherche, si c'est la surface, si c'est la perspective, si c'est la profondeur, si c'est où il est, lui, par rapport à sa toile. D'ailleurs, il y a un très court film, entre les deux passages de salle, où c'est un extrait d'une émission de télévision, c'est une minute en boucle, hein, donc c'est vraiment, vous pouvez y rester. Zaouk qui rentre dans la petite cour chez lui, qui descend un escalier et qui arrive devant une toile blanche sur son chevalet. Il la regarde, il se recule un peu, il allume une cigarette, il la regarde encore mieux. On imagine qu'il va effectivement pouvoir rentrer dedans. Moi, j'ai trouvé ça très... très beau de mettre ce tout petit film.
Oui, il y a un autre film où on voit Agnès Varda et Pierre Dex.
Ah, mais quand j'ai vu Agnès Varda, j'ai dû regarder ailleurs.
Qui déblatèrent, mais vraiment, qui disent n'importe quoi sur Zaouki, c'est magnifique. Enfin, j'ai noté Agnès Varda qui dit « Il sera toujours différent de nous, on n'a pas le code ». Donc, je veux dire, si c'est pour avoir des éléments de langage aussi profonds, je pense qu'on peut s'en passer. Mais surtout, c'est ce que dit Pierre Dex, qui pour moi est la clé, justement, de la raison pour laquelle on ne peut pas regarder cette peinture aujourd'hui. Il dit « Il y a des grands rythmes,
je vous assure, on peut.
Mais c'est admirablement peint ». Et je pense que c'est ça son problème, justement, à Zaouki. On le voit d'ailleurs sur ce même téléviseur. Ensuite, on le voit peindre. Alors là, c'est vraiment le sommet du ridicule, parce que c'est la peinture de chevalet. Il est là devant son tableau. Il prend son petit pinceau. Il donne deux petits coups, comme ça, devant la caméra. Un petit coup d'œil. Il a sur sa clope.
Enfin, il est filmé.
Il se recule. Il regarde l'effet. Il mesure avec sa cigarette pour voir si ça donne un bon effet, si ça tient. Enfin, je veux dire, on est effectivement totalement du côté de la seconde école de Paris. Moi, j'ai pensé beaucoup au nuagisme, l'école de Charles Estienne, dans lequel il y avait Duvilliers, Marcel Loubchansky. Comparé à De Gotex, je veux dire, on est quand même très très loin de la puissance d'un De Gotex. Bah oui, je suis désolé.
Moi aussi, je suis désolé, je ne trouve pas.
Et sur l'ensemble de l'œuvre, j'en parle même pas.
Et
pour moi, le sommet de ridicule, il est atteint dans l'hommage à Varèse, qu'on nous survend dans l'exposition comme étant une espèce de disruption, pour utiliser un mot à la mode. Et là, c'est quand même, il y a justement un décalage quasiment surréaliste, puisqu'en fait, on est devant cette toile qui date de 64, qui est un sommet d'académisme. 64, c'est le moment quand même où Rauschenberg a le Lion d'Or, la Biennale de Venise, où cette peinture abstraite de la seconde école de Paris, on n'en peut plus personne n'en veut, je veux dire, c'est du décor au kilomètre. Et lui, il fait cet hommage à Varèse, et dans les écouteurs, on entend la création de la pièce de Varèse en 54 à Paris, où Varèse est hué, sifflé, où ça fait un scandale, précisément devant cette peinture qui n'a absolument rien de scandaleux. Et là, pour moi, tout est dit.
Frédéric Bonnet, encore un
mot.
Oui,
non, mais je partage complètement ce que vous dites, Stéphane. C'est en cela que je disais que je le trouve qu'il est systématiquement en retard et à côté de l'histoire. Quand il fait cet hommage à Varèse, en effet, on n'est plus du tout dans ce type de peinture, de même que quand il fait ces tableaux tenus par des grandes lignes de structure noire, on n'est plus du tout dans une abstraction américaine à laquelle forcément il se réfère. Il est allé beaucoup aux États-Unis, il était ami avec Franz Kline. On va pas me dire qu'il n'y a pas pensé en peignant. Et quand il sort son triptyque de Malraux en 76, mais les Kline, les plus beaux Kline sont du milieu des années 50. On a 20 ans de retard, donc c'est vraiment, on a loupé le train. Et il y a une autre chose qui me pose un problème, c'est que vous ne pouvez pas ouvrir un texte sur Zaouvouki sans que on vous dise ou qu'il vous dise ah non, mais il s'est détaché de sa culture chinoise et de ses influences orientales pour y revenir un petit peu vers la fin. Ah si, ça c'est écrit absolument partout, sauf que à la vue du travail, les choses sont un peu plus complexes que ça. Notamment, alors je vous rejoins tous les deux sur le diptyque en hommage à son épouse de 72. Ça, j'ai trouvé que c'était une belle pièce. Il est complètement orientalisant, ce tableau.
Ah oui, ça, c'est sûr, c'est un paysage. Ah, ça,
il est complètement orientalisant. Quand il dit qu'il n'a jamais utilisé la calligraphie, c'est faux. La pièce de 57 à laquelle vous faites référence, Corinne, c'est parfaitement de la calligraphie qui est explosée. Mais véritablement, dans tous les textes, vous voyez, il est parti de Chine, il est arrivé en Europe, il s'est complètement dégagé de son héritage chinois. C'est entièrement faux.
J'ai parfois raison de ne pas lire les textes, tout.
Voilà.
C'est pas les meilleurs, le catalogue. Bon, bref.
Non, mais c'est pas seulement le catalogue.
Non, mais c'est très symptomatique.
Faut pas
ce catalogue
lire tout ce qui est écrit,
assez symptomatique.
Même si vous écrivez tous trois très bien, c'est pas la question.
Ouais.
Corinne,
Non, moi je crois que c'est quelqu'un qui s'est cherché entre l'Asie et les États-Unis. Et à l'intérieur de ça, je crois qu'un peintre, quand même, ça cherche sa surface. Je veux dire, si le peintre n'est pas en train de chercher là où il peut être dans sa peinture à l'intérieur de la surface, je vois pas ce que ça peut être aussi le travail de la peinture à cette époque-là. Pour moi, ça ne m'intéresse pas. Par contre, je suis absolument convaincue que quand vous avez fait des années de calligraphie, vous ne faites pas ça parce que vous avez été naturalisé français. Enfin, ce n'est pas possible. Quoi. Si vous êtes allé voir Franz Kline, et puis il y a des gens qui ont des temporalités différentes, puis il y a des peintres qui sont forts mais qui ne sont pas géniaux, et ça fait partie de l'art. Bon, ben voilà. Oh, bon, oui. Ben moi, ça ne change pas. Moi, je suis d'accord, mais en même temps, bon, voilà.
Zaouvouki, après ce final magnifique, le titre de l'exposition L'espace et silence, c'est jusqu'au 6 janvier au Musée d'art moderne de la ville de Paris qui édite un catalogue pour l'occasion chez Paris. Musée à suivre dans la dispute, Bouchra Halili et Roman Silsiewicz.
La dispute, France Culture. Arne Laporte.
Suite de cette dispute consacrée ce soir aux arts plastiques en nous rendant maintenant au jeu de paume pour l'exposition monographique de Bouchra Halili, dont l'artiste est elle-même avec Juan Antonio Alvarez Reyes, directeur du Centre d'art contemporain de Séville, et la directrice du musée du jeu de paume, Marta Gili. Ils sont donc tous trois commissaires de l'exposition. L'artiste franco-marocaine décline son travail en film, installation, vidéo, photographie, sérigraphie, s'intéresse aux membres de minorités dans leur résistance face aux différents pouvoirs. C'est ce qu'on va pouvoir effectivement voir au fil de cette exposition intitulée Blackboard, une sélection d'œuvres de ces 10 dernières années. Bouchra Halili au jeu de paume depuis quelques jours et jusqu'au 23 septembre. Que peut-on ? Alors, il faut du temps d'ailleurs, ça tombe bien que l'expo dure tout l'été, puisqu'il y a, combien nous a dit Marta Gili, 5h30 de films ? 3h30 de films. Bon, si on les additionne effectivement et qu'on veut voir tous ces films en entier, il faut du temps. Mais Ça, c'est une question pratique. Stéphane Coréard, premier regard sur l'expo.
Alors moi, j'ai surtout pris le temps de regarder les deux derniers films les plus récents. Ma première réaction, d'abord, c'est que j'ai l'impression de ne pas être qualifié pour parler de cette exposition, parce que je ne suis pas anthropologue, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas politologue, je ne suis pas spécialiste des études de genre ni des flux migratoires, comme le sont tous les éminents contributeurs du catalogue. Et je voudrais quand même citer, vous savez que j'aime bien citer des textes, mais là ça me paraît vraiment important parce que c'est pour moi le point de départ, la pierre d'achoppement. Hein. Ce que Nassira Ghanif Souilamas écrit dans le catalogue de Bouchra Hariri. Pour comprendre le subterfuge, il s'agit d'admettre la division des rôles entre un régime de répression et de domestication des métèques dans leur ensemble et un régime d'exception renforcé par l'extraction, extirpant de ces foules déconsidérées par la racialisation et la criminalisation quelques spécimens jugés à une toute autre aune, celle d'un talent artistique promis à la reconnaissance. Donc d'abord, je voulais quand même vous faire remarquer, mon cher Arnaud, que ce soir, nous avons abondamment abusé de ce subterfuge, puisque c'est ce qui nous vaut de discuter donc de ces métèques que sont Ralilim, Sisaouki, Roman Sislevitch, c'est-à-dire ces métèques dont l'extraction finalement nous place en complice d'un de ces régimes d'exception que l'exposition fustige de bout en bout. Enfin, régime d'exception, c'est un mot très très fort quand même. Hein. C'est, ouais. Ça a un sens dans l'histoire et dans la géopolitique. Et c'est pour moi tout à fait la thèse de cette exposition, qui est une exposition à thèse, comme Costa Gavras pouvait faire des films à thèse, et encore, c'était le meilleur, c'est dire. Et notamment, donc, les deux films les plus récents, pour camper le décor, hein, il y a The Tempest Society, qui a été initié au moment de la documenta de Cassel, qui s'était délocalisé à Athènes, où on voit trois Athéniens d'origine diverse qui forment un groupe afin de dénoncer le statut actuel des migrants en Grèce, mais aussi en Europe et dans toute la Méditerranée. Et puis à la fin de cette section de l'exposition, le film 22 Hours qui revient sur l'engagement de Jean Genet auprès des Black Panthers et des Palestiniens et de l'ensemble de ses combats poétiques pour l'émancipation collective. La première chose qui m'a frappé, c'est que ce travail qui est censé parler d'aujourd'hui ne regarde pas directement la société d'aujourd'hui, mais justement, comme je l'ai un peu déjà introduit, finalement, s'égare dans une espèce de fascination romantique pour les héros des luttes du passé. Alors ici, en vrac, il y a Jean-Luc Godard, Pasolini, Genet, mais aussi, là on l'apprend, moi, je ne connaissais pas cette troupe de théâtre itinérant à la CIFA, qui dans les années 70 sillonnait la France pour alerter les populations sur les problèmes des travailleurs immigrés. Et puis il y a aussi cette fascination tout aussi romantique pour le collectif, voire l'anonymat. Mais en fait, ça demeure complètement au stade de la fascination. Il n'y a pas de lutte concrète dans l'exposition. Il n'y a pas de collectif non plus, d'ailleurs. Il y a finalement une reprise, un remix, non seulement de ces luttes, mais aussi de tous les projets artistiques qui ont existé quand même depuis les années 60, 70, autour de ces questions. Je trouve qu'à cet égard, la cohabitation de cette exposition avec celle de Gordon Matta-Clark au rez-de-chaussée est cruelle. Parce que Gordon Matta-Clark, lui, était totalement dans son époque.
On en parlera bientôt.
Des solutions. Oui, mais enfin, voilà, je veux quand même préciser que parfois, c'est un peu comme au Palais de Tokyo, il y a parfois des télescopages un peu étranges. On se demande si c'est volontaire ou involontaire. Mais il y a Gordon Matta-Clark, mais on pourrait parler de Christophe Odichko, notamment la Biennale de Venise, je crois que c'était en 2009, il avait montré ce projet sur The Europe of Strangers, qui était sur les immigrés et les migrants en Europe. On pourrait parler d'Alfred Ojard, de Walid Raad, enfin, on pourrait parler d'énormément d'artistes. Voilà pour commencer.
Corinne Rondeau, Bouchra Halili.
Oui, c'est pas faux ce que dit tout de même Stéphane.
Ça apporte de l'eau à votre moulin.
Non, ouais, comme dirait Stéphane, la formule magique de Stéphane. Vous amenez de l'eau à mon moulin, Stéphane. C'est bien aussi quand même de...
C'est l'inspecteur moulin, moi je suis le commissaire coréen.
Il faut toujours que ce dernier... J'ai le dernier mot, ok. On a quand même 10 ans, là, 2008-2011, avec les Mapping Journées, qui... Moi j'ai découvert ça à la galerie Marianne Goodman en 2011, dans une exposition de Marie Muraxiol, qui était You Have Been There. Et j'avais été vraiment très touchée et très stimulée par ce travail, puisqu'en fait, elle demande à des migrants, face à une carte, on a une main, on a leur voix off, et ils décrivent en fait leur parcours sur une carte qui peut aller de l'Afghanistan jusqu'en Europe. Et donc, j'avais trouvé ça extraordinaire parce que c'était simple, parce que c'était présent. C'est-à-dire que le type ou celui qui a migré, ce n'est que lui qui parle et en même temps, on n'a pas son corps. C'est-à-dire, il y a une ligne voix qui...
Vous êtes sûr que c'est lui qui parle? Parce que ça fait partie des questions que moi me pose l'exposition,
où
il y a des témoignages qui sont recueillis qui sont reenacted, oui, comme on dit en bon français, rejoué.
Alors, c'était pas le cas pour les. Alors, il me semble que ceux-là, c'est eux.
Mapping
Journeys. Ce sont des migrants.
Parce que c'est pas le cas pour d'autres films.
Pour les autres, non. Mais là, c'est, enfin, pour certains encore, ce sont des migrants qui vont.
Enfin, il y a un texte qui est joué. Enfin.
Alors, là, j'étais très motivée par ce travail, et c'est une des raisons pour laquelle je voulais voir cette exposition, parce qu'elle parlait de l'absence. Elle montrait l'absence et la présence de ces corps sur une géographie. Et justement, c'était des voies-lignes, et c'était aussi une forme à la fois de dessin d'un destin, et à la fois l'inscription sur des territoires. Et c'est aussi comment on traverse des frontières quand les frontières nous empêchent de traverser. Alors ça, j'étais très très attentive, et effectivement, à l'autre bout de l'exposition, où on a 2018-22 Hours, où là, on a un travail beaucoup plus formaliste sur la question du cadrage, du chant, du hors-chant, de la voix off, de la voix in, et qui est aussi une reprise de ce qu'il y a dans d'autres vidéos, par où commencer, où en est l'histoire. Et là, il y a une déclinaison beaucoup plus forte qui est, doit-on commencer par l'histoire, doit-on commencer par l'image, doit-on commencer par ce qui reste. Et on voit bien qu'elle commence à chercher plutôt quelque chose de l'écart. Alors, cet écart, il me paraît formellement assez réussi dans le dernier. Mais j'ai l'impression que de 2008 à 2018, il y a un effort ou une volonté de chercher à manifester vraiment une écriture, quelque chose d'extrêmement volontaire, voire scolaire parfois, et qui est un peu pénible, je dois bien dire, parce que 3h30 à regarder comme ça, sachant qu'on n'a jamais de DVD possible, donc il faut que les artistes quand même vidéastes se disent que si on les voit pas en salle de cinéma, il faut peut-être qu'un jour ils arrivent à admettre qu'on peut les voir aussi en DVD, parce que il y a un problème là pour moi, parce qu'il y a des vrais, ce dernier film qui fait 40 minutes, je crois, 22 hours, moi j'aimerais bien le voir pour le découper. Vous voyez, c'est-à-dire me mettre dans une réflexion plus grande sur la manière dont c'est construit entre le texte et entre l'image, la manière dont elle monte. Deux jeunes femmes qui vont interroger un témoin des Black Panthers. À quoi ? À la venue de Jean Genet sur justement le soutien. Et je rejoins Stéphane sur cette question, parce qu'on a le catalogue et Pasolini et machin et bidule. Mais moi, je veux dire, pour moi, Bouchra Khalili est à. Je ne discerne pas la révolte d'un Pasolini ou d'un Jean Genet. Puisqu'en fait, le Jean Genet, c'est. Et d'ailleurs, c'est dit dans sa vidéo, hein, le poème propre de Jean Genet, c'est sa révolte. Le problème, c'est qu'il n'y a rien d'une révolte. Elle interroge des migrants, elle les fait rejouer, ou elle les interroge sur des situations d'injustice, d'exclusion, puisque l'exclusion est une grande manifestation autour de l'exclusion, donc de l'injustice. Et en fait, il n'y a pas de révolte. Et tout est mis au froid. C'est, voilà. Alors, ok, je veux bien qu'on soit pas dans l'empathie, je veux bien qu'on soit pas dans la passion, mais je veux dire, quand vous amenez la parole de Jean Genet, quand vous dites, moi je fais de la cinéma de poésie à la Pasolini, alors que Pasolini n'en a jamais formellement fait une image. Ça, il suffit de lire Hervé Joubert-Laurencin, hein, le dernier poète expressionniste, page 96, il vous le dira. Donc, à un moment donné, on se dit, et là, c'est bien le côté dessous Mataclac, parce que justement, où est notre présent ? Et il y a une volonté de ces artistes aujourd'hui, la 40-50aine, où il y a une volonté, pas non pas d'admiration, mais de se réinscrire dans des discours. Et en fait, ce qu'elles cherchent, c'est un syndrome, pour moi, que j'appellerais la syndrome de Babel. C'est-à-dire, où se trouve notre langue commune ? Et alors, entre la traduction, la citation, le réenactment, etc., il y a une volonté du langage, mais le problème, c'est que quand vous faites passer d'une langue à une autre langue, vous n'êtes pas nécessairement dans la parole. Et moi, ça me pose un problème.
Frédéric Bonnet va ajouter son point de vue sous ses regards.
Oui, je pense que Corinne touche assez juste, parce que moi, ce qui m'apparaît à la visite de cette exposition, on présente souvent le travail de Bouchra Khalili comme étant un travail sur les migrants, sur la migration, sur la globalisation. Mais in fine, moi, je trouve pas tant que ça. Ça me paraît plutôt être un travail sur l'écriture de l'histoire. C'est ça qui revient dans absolument toutes les œuvres. 90% du travail traite de ça, traite de l'écriture de l'histoire et traite des modes de narration, d'une expérience du corps considéré en tant qu'humain, mais considéré également en tant que lieu et en tant qu'enjeu politique. Et je trouve que elle aborde ce sujet-là de manière assez inégale. Je le connaissais auparavant et j'aime toujours bien voir son Mapping Journey Project, que là je trouve très bien accroché, très bien installé.
Ah ouais, mais l'expo est scénographiquement,
oui,
super.
Scénographiquement, voilà. Remarquable. Ouais. Ouais, tout à fait. Et avec ces protagonistes qui dessinent la propre cartographie, la propre géographie de leur clandestinité et la réalité de leurs propres frontières, par-delà les frontières existantes. Moi, j'ai toujours trouvé ce projet assez remarquable. De même, j'aime assez bien le film le plus récent, 22 Hours, parce que il pose la possibilité d'un cinéma politique, mais il répond pas à la question. Et c'est là que ça commence à devenir problématique. C'est que arrive un moment où Bouchra Khalili s'enferme dans son propre discours, dans ses questions d'écriture, délègue peut-être aussi un peu trop la parole et la prend rarement elle-même. Donc c'est toujours très bien, intéressant, porteur d'amener du témoignage et de laisser des gens témoigner, mais un moment où il faut peut-être dire « je ». Alors évidemment, n'importe quel artiste répliquera que en faisant une œuvre, c'est une déclaration et qu'il dit « je ». Mais là, le sujet est suffisamment culturel et politique pour que il y a un moment où on aimerait un peu plus l'entendre dire « je » elle-même, et pas seulement entendre. Moi, par contre, une œuvre qui m'a vraiment, qui m'énerve vraiment, que je trouve vraiment ratée, c'est cette série de films qui s'intitule « Je cherche », The Speeches Series, où j'ai quand même pas besoin de Bouchra Khalili aujourd'hui pour entendre des immigrés équatoriens ou péruviens ou chinois en Italie venir me dire que, ah oui, c'est dur en Italie, qu'on est considéré comme une sous-merde, et que il y a cette femme qui a cette expression assez terrible. On lui demande d'être italianisé, mais évidemment, mais j'ai pas attendu ça aujourd'hui de découvrir ça. De même que dans la même série de films, il y a un autre film où là, elle fait déclamer à des exilés dans différents pays des textes. Des Usual Suspects sur la question, Édouard Glissant, Malcolm X, Aimé Césaire, et ça n'a aucun intérêt. On nous explique que ça les rend plus actuels. En quoi ça les rend plus actuels de les faire réciter par des gens déracinés de leur pays dans leur propre langue? Ça n'a aucun sens. Donc voilà, il y a quelque chose de pas abouti et de très inégal en fait dans le travail. Par moment, je trouve que c'est très très juste, et par moment, elle se laisse aller à des facilités de langage et d'écriture.
Oui, mais c'est le cas aussi dans Foreign Office, c'est une autre pièce qui traite de gens qui ont voulu s'opposer, de quelle façon ils se sont opposés, comment ils ont finalement tourné leur veste, été emprisonnés, tués, etc. etc. Où là, on a un couple de comédiens, je ne sais pas comment dire autrement, qui nous donne à entendre un texte quand même là aussi extrêmement pédagogique. Mais l'exposition s'appelle Blackboard, hein, c'est le tableau noir, donc c'est quand même aussi, enfin il y a quelque chose qui est dit là un peu littéralement par Bouchra Khalili. Mais moi, ce qui m'a le plus énervé, c'est Tempest Society 2017, donc en Grèce, on la documenta avec on voit très bien ce qu'elle veut faire, me semble-t-il, retrouver quelque chose qui serait un mélange entre l'agora athénienne et le théâtre aussi antique, avec un jeu de masques en plus, et puis vraiment une façon d'être installé avec un écran au ras du sol qui est censé nous mettre au niveau de ces comédiens. Mais bon, il y a deux fois Castrapontin de cinéma en biais, donc ce qui n'est pas non plus tout à fait formidable pour voir le film. Et alors, si on ne comprend pas ni le grec, ni je crois que c'est grec entièrement, les sous-titres français sont tout petits en bas, donc on ne voit pas le film. Enfin, il y a quand même, comme vous le disiez, Corinne Rondeau, il faudrait avoir d'autres possibilités de regarder les films. Oui, ce serait quand même assez formidable, parce que je veux bien que les artistes aient envie de présenter leur travail d'une façon précise, sauf que ça empêche quand même de le voir, là, en l'occurrence, me semble-t-il. Donc, oui, quelque chose de très, très littéral, très, très pédagogique. Et moi, la question du reenactment, du rejouer, pourrait-on dire en français, me pose problème. C'est pour ça que je vous demandais pour les cartographies, journeys, comment ça s'appelle ? Mapping Journeys, qui est vraiment, pour le coup, la plus belle pièce, qui est donc tout au fond de l'exposition et qui est très très bien montrée. Je me demandais si du coup c'était aussi la même chose. Stéphane Correa.
Mais moi, ce que ça a rejoué, je crois que c'était pas prévu par l'artiste, c'est que j'ai pensé au gauchisme de Park Avenue de Tom Wolfe, dont on a parlé il y a pas longtemps. Moi, c'est le gauchisme de la place de la Concorde. Effectivement, The Tempest Society, là, dont vous avez parlé, Arnaud, on voit ces migrants dans un grand loft à vocation culturelle à Athènes. Ils sont beaux, ils sont propres, ils sont bien habillés, ils s'expriment bien avec des mots choisis, ils sont pleins d'idéaux et de bonté, mais vous avez envie de les accueillir chez vous tout de suite. Mais la question, c'est que s'ils étaient moches, sales et mal habillés, qu'est-ce que ça change politiquement, en fait? Pourquoi c'est, moi, ça, là, je peux pas. Je veux dire, je veux nous montrer ces migrants de cette manière-là. Je trouve la semaine, en plus, où l'hystérie médiatique a fait défiler sur tous les plateaux et dans tous les palais de la République, Mamoudou Gassama, qui était lui aussi un bon migrant athlétique. Non, c'est pas possible.
Bon, on va s'arrêter là parce qu'il reste très peu de temps et qu'il y a enfin une exposition que vous aimez qui arrive au programme. Donc, rappelons que Bouchra Halini, on a jusqu'à 23 septembre pour aller voir cette exposition au Jeu de Paume. Voilà, pour voir si vous avez des avis différents sur cette exposition, et dire aussi, comme on en saura plus, que Bouchra Halili sera invité de Marie Richeux tout à l'heure à 21h dans Par les temps qui courent. Donc comme ça, vous pourrez entendre directement ses propos.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Le troisième sujet, je crois, enfin pour deux d'entre eux, Frédéric Bonnet fait un grand sourire, une exposition qu'ils ont aimée, je ne sais pas si ce sera votre cas, Roman Sislevich, au Musée des Arts Décoratifs, le MAD, hein, on dit maintenant. Le titre, La Fabrique des Images, la commissaire Amélie Gastaud, rappelons qu'il est né en Pologne en 1930, qui s'est installé en Paris en 63, qu'il a été notamment directeur artistique du magazine Elle, ça c'est la fin des années 60, il a été enseignant à l'école des Arts Déco, il a fait de l'affiche, de la publicité, du photomontage, de l'édition, de l'illustration, du graphisme, évidemment sous différentes formes. Et en lien, lui, vous allez en parler avec l'actualité de son temps, pour le coup, 700 pièces visibles dans l'exposition du MAD présenté de manière chronologique et thématique.
Mona Lisa, Mona Lisa, meant I made you. You're so like the lady with a mystic smile. Is it only cause you're lonely that I blame you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile at the lover, Mona Lisa? Or is this the way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there.
Are you... Alors, est-ce qu'on va plus vite quand on aime? Corinne Rondeau, Roman Sislevich.
Écoutez, on dit artiste majeur, moi je dis artiste essentiel. Je veux dire, c'est l'expo, génial, qu'il faut aller voir au MAD. Simplement parce que je trouve que l'exposition... Ils n'ont pas eu beaucoup de choses à faire dans cette exposition, tellement l'œuvre est cohérente, forte. Et, je veux dire, la thématique, c'est juste pour nous mettre, je dirais, quelques repères, puisqu'il aime le rouge et le noir. Donc on commence avec des salles, avec des archives. Et donc on a tout ça étalé avec du noir, des bouts de choses qui découpent. On va reconstituer vaguement son atelier. Et donc on va voir que c'est quelqu'un qui classe. On va voir des journaux où on va voir avec quelle précision il va barrer les lignes. Il va s'inscrire. Mais moi, ce que je trouve absolument génial, c'est que la troisième salle, c'est sur l'œil. Donc vous me mettez de l'œil, bon, là, c'est fini, je suis à vous entièrement. Il y a la force de ces cadrages, il y a la force de ces affiches polonaises déjà quand on rentre. Et puis après, c'est juste un déroulé époustouflant de quelqu'un qui sait regarder, qui sait trancher dans la saturation des images. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin de faire de discours sur ce qu'il fait. Et quand il dit « je suis affichiste », j'ai envie de dire merci de dire juste affichiste, parce qu'on peut faire des choses qui sont de l'art. C'est-à-dire comment on a un œil qui permet un discernement à partir duquel on nous fait voir les choses. Parce que c'est ça, être de son temps, c'est de nous faire voir les choses. Et tout simplement, et comment il fait ? Bah lui, il découpe. Voilà, il dit, il a un ciseau, un cutter et un tube de colle, et ça suffit, quoi. Et on se dit, mais allez tous voir ça. Et puis arrêtez les discours, arrêtez. Et voilà, on commence par des choses très simples. Donc en fait, il y a cette idée de couper l'image, où il va vouloir empêcher une certaine pollution de l'œil, puisque pour l'œil, évidemment, c'est toujours la séduction. Donc lui, il a une capacité à déchirer le voile de l'hypocrisie avec justement de l'illusion, puisque l'image est illusoire et en même temps, il le fait avec le jeu de l'illusion. Il y a un poster, par exemple, où en gros, vous avez CD, dessous, vous avez un enfant en train de mourir de faim, et en dessous, vous avez corps diplomatique. Voilà. Et tout ça se joue entre le fait de savoir quelles sont les images. Il se baigne dans un monde d'images qui est le monde du papier. Là. Il a toujours une fascination pour la masse des images, quand il arrive à Paris, et notamment, et puis ce mot de masse... Voilà, il est toujours là pour lui. Et bon, alors moi, j'ai trouvé cette expo géniale entre justement jouer la coupe, le collage. Et puis ensuite, il va jouer notamment pour la revue Kamikaze, la revue de panique. Évidemment, le présent est toujours une panique. Et là, il n'intervient plus, il met en tension deux images. Mais allez-y, vous avez des claques à chaque chose.
Aussi,
et en plus, le parcours
septembre.
Est formidable, la scénographie entre le début. Au fond, il y a changement de décor, je sais pas quoi. Et moi, j'ai entendu en fait Einstein on the Beach, la musique de Philip Glass, et je suis partie au fond en me disant qu'est-ce qui se passe. Et après les cloches. Et enfin, c'est formidable. Bon, je dis plus rien, mais c'est génial.
Non, mais vous pourrez peut-être redire quelque chose si vous laisse du temps. Frédéric Bonnet, alors suspense.
Ah ben, je m'y suis promené avec délectation. je suis d'accord avec Corinne, c'est l'exposition. Aller voir, enfin, en tout cas celle qu'il faut pas rater en ce moment, parce que on revoit des choses qu'évidemment on connaissait, on voit aussi des choses qu'on connaissait et puis qu'on savait pas que c'était Sisley Vitt, genre les guides bleus. Moi, je savais pas que les guides bleus, les magnifiques et iconiques guides bleus, c'était Sisley Vitt aussi qui avait fait ça. On retrouve des tas d'objets qu'on a tous eu en main ou qu'on a tous vu passer, Opus International, les éditions 10-18, enfin des tas de choses, et donc tout ça c'est Sisley Vitt. Mais au-delà de ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est que la véritable bonne idée de l'exposition, c'est d'avoir sorti certaines de ces boîtes d'archives. Il faut quand même expliquer aux auditeurs qu'on a retrouvé chez Sisley Vitt plus de 300 boîtes thématiques, le blanc, le rouge, le noir, l'œil, la main, le je sais pas quoi, avec des découpages à l'intérieur. Et donc, ceci explique tout ce dont parlait Corinne, d'une pratique du collage. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est cette question du collage, parce que tout ce travail basé sur du collage, ça vient d'où ? Ça vient de Dada, ça vient du surréalisme, ça vient du constructivisme, qui ont été des guides complets dans son travail. Et c'est pas anodin qu'il y ait à un moment une petite note manuscrite dans une des vitrines, où c'est une petite phrase de Max Ernst qui dit « c'est la plume qui fait plumage, mais ce n'est pas la colle qui fait collage ». Et ça explique bien la démarche. C'est délicieux. Et ça explique bien la démarche de Sisley Vitt, qui est d'insuffler de l'imagination dans le déchet du quotidien. Le déchet, c'est justement, vous parliez de la masse, Corinne, c'est kilos d'images qu'on va ramasser et qu'on va retravailler. Et une autre chose, au-delà de l'imagination phénoménale de Sisley Vitt qui m'a intéressé, c'est que c'est un travail éminemment et fortement politisé, avec toujours quand même un certain décalage, mais la revue Kamikaze dont vous parliez, il y a que trois numéros, fait au milieu des années 70, c'est des commentaires frontaux, directs sur les périls de l'époque, mais en même temps sans vous en faire non plus des tonnes dans le discours. C'est vraiment une question de l'urgence qui est faite avec les photos prises dans ces boîtes et puis réarrangées. Donc voilà, moi, pour conclure en trois mots, ce que je trouve fascinant dans tout le travail de Sisley Vitt, c'est que il y a provoqué, il y a commenté et il y a instruire tout ça à partir du flux des images du quotidien. C'est remarquable.
Stéphane Coréard.
Bah oui, c'est une exposition magnifique, évidemment, et non seulement magnifique, mais je dirais même plus utile et même indispensable dans le monde d'aujourd'hui où on se demande toujours comment regarder les images. Cette exposition balaye 60 ans d'images contemporaines en explorant systématiquement tous les dessous, les travers, les forces, les faiblesses, les mensonges, les vérités cachées qu'elle révèle. C'est un immense artiste. Évidemment, on pense aux autres grands collagistes. Enfin, moi, j'ai pensé de la même époque, Hérault, Géricault, Lucas, mais aussi des cubomanies de Gerasim Luca. Mais ça fait exploser tout ça. Il a une science de l'œil effectivement incroyable. Mais il y a des avec son économie de moyens incroyable, une économie de mots. Effectivement, c'est vraiment un homme d'image. Il dit lui-même à un moment donné, j'utilise des outils du XVIe siècle pour créer des images nouvelles. Donc cette économie de moyens est vraiment magnifique. Mais l'exposition livre quand même, je trouve, des leçons importantes qu'on pourrait méditer. D'abord, on ne cesse de régresser. Parce qu'aujourd'hui, on nous explique tout le temps qu'on l'extension du domaine de l'art, ça, on n'arrête jamais d'étendre le domaine de l'art, mais finalement, il était beaucoup plus étendu, sans doute, dans les années 60-70, et notamment des créateurs comme Sisevich étaient considérés comme très importants et comme des égaux des artistes. Et aujourd'hui, c'est pas forcément le cas. Donc ça, je pense que c'est déjà une première leçon. Il était d'ailleurs tellement considéré comme un créateur à part entière que moi, ce qui m'a frappé, c'est que des grands maîtres de l'image, comme Topor, par exemple, ou Depardon, lui laissent les clés de la boutique et lui disent « Vas-y, c'est toi qui fais l'affiche, c'est toi qui fais la couverture. » Faut être quand même, quand on est Topor, je veux dire, on fait pas confiance à n'importe qui pour faire une couverture de livre. D'ailleurs, par exemple, au passage, il y a aucun logo sur ses affiches. Il accepte aucun logo extérieur. Quand on voit aujourd'hui n'importe quelle affiche où le tout le bas est occupé par une ribambelle de logos ridicules, il montre qu'un graphiste, ça n'est pas qu'un prestataire de service. C'est un artiste engagé. Il travaille pas pour n'importe quelle cause. Il a une vision de la société et il a toujours gardé une pratique d'atelier aussi. La plupart des magazines, par exemple, qu'il a fait comme Kitsch, etc., étaient des œuvres propres. Finalement, dont il était le concepteur à 100%. Et puis, il fait des collages d'ateliers. D'ailleurs, je crois qu'on en verra à la Galerie Semioz dans une dizaine de jours. Il a réussi dans ses années 60-70 aussi ce que beaucoup d'artistes pop ou de la figuration narrative ont moins bien finalement réussi que lui. C'est là où il y a quand même une grande leçon aussi d'exposition. Gilles Debure, à un moment donné, dans un film, le critique, dit que c'est lui qui nous a montré que nous ne vivons qu'à travers les images. Et Topor ajoute que Sisevich avait la force de redonner de la vigueur aux stéréotypes. Et ça, je pense que c'est effectivement cette vigueur, je pense, dont parlait Corinne. Et il montre, justement, je parlais de ce rapport à l'art, qu'il n'est pas du tout en opposition à l'art, ou il n'est pas en rivalité avec lui. Au contraire, il est dans un dialogue fécond avec l'art. La couverture de Kitsch numéro 1 avec la bouche de Wesselmann est absolument magnifique. Moi, il y a une autre affiche, par exemple, au hasard, il y en a plein qui m'ont frappé, mais l'affiche du film de Depardon, Urgence, on a l'impression que c'est que du graphisme sur une espèce de monochrome pixelisé, et puis d'un coup, on aperçoit une espèce de fantôme d'hélicoptère qui est quasiment invisible au premier regard et qui donne une force à l'affiche absolument incroyable. Enfin, c'est vraiment une exposition magnifique, il faut se précipiter pour aller la voir.
Ah oui, un post-scriptum. Corinne Rondeau.
Non, je vais être trop longue.
Oh si bon.
Non, ce que je veux dire, c'est pas la peine non plus de pleurer sur le fait qu'aujourd'hui, c'est l'enfer, quoi, vous voyez. Non, mais parce que ça m'agace aussi d'avoir des discours comme ça en disant, bah, c'était le dernier des Mohicans, vous voyez. Bah, évidemment, oui, mais c'était pas la même époque, la manière de faire de l'archive n'est pas la même. Il y a une mémoire froide qui s'appelle l'ordinateur, on stocke beaucoup de choses, et puis on a moins de pratique, peut-être que ça change aussi la manière de percevoir les choses. Et puis aussi, on est rentré dans un espace quand même de grande docilité politique, ce qui fait que la manière de venir trancher les choses est beaucoup moins nécessiteuse, alors qu'effectivement on appelle là à aller voir l'instruction, le commentaire et en même temps ce qui vient nous trancher l'œil. Je veux dire, il y a un côté un peu chien andalou dans cette exposition qui nous réjouit, mais en même temps je voudrais pas faire de... Évidemment, il y a une tradition du collage qui dit tout de ce travail. En même temps, c'est quand même l'artiste qui, pour moi, fait autre chose après le collage moderne. Et c'est parce que on ne peut se saisir que d'une vieille pratique à condition de voir son présent. Ce qui pêche pour nous, c'est qu'on n'a plus les yeux pour voir le présent, il me semble. Et on est enfin, il y a quelque chose du discours plutôt que de l'œil qui joue pour nous, parce que, voilà. Mais la saturation, elle devait être aussi grande du temps de Sisevich que pour nous aujourd'hui. Donc là, pour moi, c'est juste la docilité qui a endormi un peu l'œil, mais c'est pas...
30 secondes de réponse.
Oui, pour moi, il n'y avait aucune nostalgie. Au contraire, quand j'ai commencé en disant que c'était une expression utile, c'est que ça doit nous convaincre que c'est encore possible aujourd'hui. Et je pense qu'il faut faire confiance à...
Oh, j'en ai certainement... de l'eau à votre moulin, en fait.
Bon, voilà, ce sera le mot de la fin concernant cette dispute Roman Sisevich, exposition à voir et à revoir jusqu'au 23 septembre au Musée des Arts Décoratifs, qui en édite aussi un très beau catalogue. Et avant de conclure la dispute, le jeu de celle-ci, qui va avec Camille et André, qui va d'abord nous rappeler la question du jeu d'hier au soir et nous donner sa réponse, Camille.
On se demandait hier quel était le nom antique de la ville de Nîmes, et il s'agit de Nemausus.
Ce soir, des invitations à gagner, des places de cinéma pour le film Una questione privata de Paolo et Vittorio Taviani, qui est sorti aujourd'hui dans les salles. Quelle est la question, Camille?
Eh bien, dans quel film réalisé par les frères Taviani, Ours d'or à Berlin, des prisonniers travaillent-ils à l'adaptation d'une pièce de Shakespeare?
Très beau film. Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr, à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez réécouter nos émissions et bien sûr vous abonner au podcast, ne pas l'oublier. Demain, 19h, dispute consacrée à la bande dessinée. Nous serons en compagnie de Catherine Robin, Joseph Gosne et Antoine Guillot à notre sommaire Pittsburgh de Franck Santoro, aux éditions Ça et là, Lune du matin de Francesco Cattani chez Atrabile et Moins qu'hier, plus que demain de Fab Caro chez Glénat.